Comme vous le voyez là, à droite, sur le mur, le sport prend une place particulière à l'établissement Daniel, donc établissement chrétien dans lequel je travaille. Et on a toujours dit que l'établissement Daniel était au cœur de l'Église. Et on prie, l'Église Josué prie depuis des années pour cette école, fidèlement. Et moi, je voudrais faire les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire vous faire quelque part vivre un peu un bout de notre quotidien. Donc, on a été invité à travailler sur la thématique du sport cette année à l'école, et on avait notamment la possibilité de parler du sport lors des cultes hebdomadaires qu'on a avec les élèves. Et c'est ce que j'ai fait récemment. Et je voudrais aussi, quelque part aussi, aborder cette dimension sportive avec vous. Et l'idée, ce n'est pas de vous proposer une étude biblique complète sur le sport, mais c'est simplement de vous présenter quelques événements sportifs, et là où ça va être important, c'est ensuite de, à partir de ces événements-là, mettre en évidence des valeurs bibliques, des messages bibliques, des notions bibliques qui sont capitales pour notre vie, pour notre marche, et j'aurais envie de dire pour notre course. Parce que l'image de la course, elle est omniprésente dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Paul a beaucoup recours à cette image. Et c'est vrai que notre vie, c'est une course. D'accord ? C'est une course, et c'est une course aussi vers notre destinée. Et il y a un enjeu spirituel. Et c'est vraiment important d'avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Je vous renvoie à l'image que vous avez partagée dimanche dernier. Parce que, qu'est-ce qui se passe le long d'une course ? Eh ben, non seulement, comme j'ai partagé dimanche dernier, on peut être soutenu de part et d'autre, mais on peut aussi être découragé. Peut-être qu'on voudra nous immobiliser, nous ralentir, nous faire prendre des faux raccourcis qui seront finalement des détours, ou bien même, on nous poussera même à faire demi-tour. Et donc, cette image de la course, elle est très parlante, et donc, c'est clair que dans le monde du sport, il y a des choses, hein, je le dis clairement, il y a des choses qui sont sales, il y a des choses qui sentent mauvais, d'accord, au niveau de l'argent et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses. La Bible nous dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, je vais toujours vous donner, voilà, vous montrer quelques événements sportifs. Les vidéos n'excèdent pas 2 minutes, mais le but, c'est pas la vidéo en tant que telle, ça on peut faire chez nous, regarder la télévision, mais c'est le message biblique que je voudrais appuyer. Voilà. Est-ce que c'est possible de présenter la vidéo numéro 1 ? Alors, juste un instant, je l'introduis très rapidement. Alors, il s'agit d'un match de tennis. Alors, il y aura tout. Il y aura du sport individuel et du sport collectif. J'ai commencé par le sport individuel, hein. J'ai d'abord parlé de course individuelle. Et là, il s'agit d'un match de tennis qui a eu lieu en 1988 et qui a marqué l'histoire du sport. Et là, vous avez eu un jeune chinois, Michael Chang, Chang avec un G à la fin. Il avait à l'époque 16 ou 17 ans, donc pratiquement l'âge de ma fille. Et il s'est retrouvé sur le court central. Et il a joué contre le numéro 1 mondial, un tchécoslovaque d'ailleurs, un compatriote, Ivan Lendl. Et là, il a fait quelque chose d'extraordinaire, ce jeune, cet ado, parce qu'il a défié le numéro 1. Il était en train de perdre. Il a en plus eu des courbatures. Non, qu'est-ce que je raconte ? C'est là, des crampes, pas des courbatures, des crampes. Je ne sais pas si vous avez vu des crampes. Quand tu as des crampes, tu n'as pas envie de continuer. Et il est allé jusqu'au bout, et donc je voudrais juste vous montrer un petit extrait de cet événement.
Angling me, you know, making me run corner. I'm not really sure. I think his mentality was, well, I'm just going to keep him out here until he just keels over and can't play anymore.
Malgré tout, en marchant,
at 2-1 set, I started to kind of compromise in my mentality. I started thinking to myself, well,
il envisage d'abandonner.
So I started thinking to myself, you know, if I quit now, it's actually not a bad thing. You know, I'm 17 years old, I'm taking the number one player in the world, 5 sets, I'm on center court Roland Garros. And it dawned on me that if I were to quit then, I would quit again.
Terrible.
Do I really want to be known for this? Strangely enough, I have a more difficult time holding my serve than breaking it. I'm about to lose my serve again. And then it dawns on me that I got to do something different. Just spur a moment, I decided I'm just going to do it against Griffin.
Il a introduit le fameux service à la cuillère, il a remporté le point.
And from there, I think it just became a really huge mental battle for Yvon.
Il marche, il n'en peut plus. Et là, balle de match. Et il fait quelque chose de tout à fait correct, il s'avance, il a le droit de se placer où il veut. Et il intimide.
Et Lendl proteste.
Non, il demande un premier service. Mais Monsieur Hicks ne lui accordera pas, il n'y a aucune raison.
Mesdames et messieurs.
Regardez.
Et le numéro 1 mondial frustré. Et lui, vous voyez, il secoue ses jambes, il n'en peut plus.
Ah, il est devant maître dans le cours.
Voilà,
ok, on peut s'arrêter là. Alors moi je l'avais vu en direct ce match, je m'en souviens quand j'étais enfant, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et donc, ce jeune, il a, enfin, maintenant il est plus tellement jeune, il a vraiment un témoignage remarquable parce que deux ans avant ce match, eh ben, ses grands-parents lui ont offert une Bible. Et il a commencé à lire la Bible et s'est converti au Seigneur. Et là, il a dit à la télé française, à France 2, il a dit « Je fais confiance à Christ pour tout dans ma vie. Chaque jour, je prie, je lis la Bible. » Et, c'est intéressant, il disait « La clé de la victoire pour moi, entraînement physique, mais entraînement spirituel. La prière, lecture de la parole. » Et ensuite, il a gagné le tournoi, c'était pas la finale, il allait jusqu'au bout. Et il a déclaré la chose suivante, qui m'a vraiment touché. Il a dit, j'ai l'habitude de prier avec ma famille, nous prions avant chaque match, nous ne prions pas pour que je gagne, je répète, nous ne prions pas pour que je gagne, nous prions pour que je brille pour le Seigneur. Nous prions pour que je brille pour le Seigneur, qu'il me donne la force et la paix et que je fasse sa volonté, qu'il m'utilise pour le glorifier. Il a même fondé une fondation, et c'est une fondation d'ailleurs à caractère familial, qui vise à développer des valeurs telles que l'excellence, l'intégrité, la persévérance, le travail d'équipe, la compassion. Et ça m'a vraiment marqué. Et je crois, je renvoie au message de Werner. Werner qui avait aussi utilisé l'image du flambeau. N'est-ce pas? On est appelé à briller comme des flambeaux dans ce monde. Et c'est ce que lui fait, c'est sa perspective. Et là, j'ai découvert une citation d'Albert Einstein qui va dans ce sens. Albert Einstein qui a dit, n'essayez pas de devenir un homme ou une femme à succès, mais essayez de devenir un homme ou une femme qui a de la valeur. Excellent. Et je renvoie au message de Julie aussi sur la femme vertueuse. Et d'ailleurs, ça veut dire, c'est la femme de valeur. En tout cas, voilà, qu'on peut aussi traduire de cette manière-là. Cette femme, d'ailleurs, qui se rit de l'avenir. Et ce qui m'a aussi frappé concernant ce jeune Michael Chang, c'est qu'à l'époque, quand il a envisagé de devenir joueur professionnel, on lui a dit, tu es trop petit. Oui, il est très petit, effectivement. Tu n'as pas le gabarit. Tu es sûr d'y arriver? Et moi, ça me fait penser, bien sûr, comme peut-être vous, à David et Goliath. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un Goliath qui, non seulement d'accord, est imposant par sa taille, mais qu'est-ce qu'il fait? Il méprise David. Il le méprise, parole méprisante, et il va même encore plus loin. Il le maudit. Il le maudit. Et souvent en plus, les paroles méprisantes sont des paroles de malédiction. Et ce que je trouve fort, c'est un peu Chang, un peu comme David. Et bien quelque part, ces paroles, ça leur est passé au-dessus, j'ai envie de dire, ça leur est passé en dessous. Ça leur est passé en dessous. Parce que eux, ils avaient leur objectif en tête et ils ne se sont pas laissés démonter. Et nous, parfois dans notre marche, ben, on peut se laisser démonter par des paroles comme ça. Même des paroles encore de l'enfance qui ont une empreinte sur nous. Des paroles méprisantes, voire des paroles de malédiction. Mais c'est vraiment important. Et le Seigneur peut nous laver de cette boue-là pour qu'on ne soit pas ralenti dans notre marche. Ok, deuxième exemple, vidéo numéro 2. On reste dans le monde du tennis, dans le sport individuel. Encore juste aussi, un point aussi qui me paraît important à dire, c'est que il y a beaucoup de sports actuellement, mais on voit quand même dans l'esprit de Babylone, ce qui compte, c'est gagner, quitte à écraser l'autre et mettre l'ego quelque part en avant. Mais je crois que l'esprit du royaume, c'est pas d'écraser, mais c'est de briller pour mettre Christ en nous en avant et faire grandir les autres. Ça, c'est quand même une grande différence. Oui, le deuxième exemple, s'il te plaît. Un grand joueur de tennis, Thomas Muster, qui a vécu quelque chose de terrible.
Aber bei dem Namen Thomas Muster verbindet man unwillkürlich auch diese Bilder. Festgeschnallt auf einer Holzbank versuchte er, Tennis zu spielen. Denn am 1. April 89 hätte die Karriere von Muster fast ein jähes Ende gefunden.
Ich wollte zurückgehen zum Kofferraum. Hab dann dort
alors,
eine Geldbörse aus dem
Thomas Muster, moi je l'ai vu s'entraîner à Stuttgart dans le sud de l'Allemagne. Impressionnant, impressionnant. Et il avait rien. Jusqu'au jour, en 1989, il se trouve dans ça là, près de, je crois qu'il mettait son sac dans le coffre, et il y a un ivrogne qui lui rentre dedans à 100 km/h, donc il lui percute la jambe. Et là, les médecins ne savaient même pas s'il allait remarcher. Et ce qui est fort, merci, ce qui est fort, c'est que on lui a même dit, alors, mettre un terme à ta carrière. Vous savez, dans le sport de haut niveau, quand vous êtes blessé, parfois, ça peut dire terminé. Terminé. Parce que pour revenir nouveau à un haut niveau, il faut le faire. Et lui, il avait cet objectif-là, de devenir pro, d'être le numéro un mondial. Donc, il a eu ce plâtre. Et donc, vous avez vu, il a continué à s'entraîner. Ça, c'était en 1989. Regardez ce qui se passe 6 ans plus tard. Vidéo suivante. 6 ans plus tard. Pendant 6 ans, il a continué à s'entraîner. Donc un extrait du journal télévisé de France 2 en 1995. C'est un peu vieux, c'est vrai.
Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de revenir sur le plateau de notre soirée électorale, en compagnie de Daniel Bilalian et Bruno Mazur, je vous propose de faire un tour complet de l'actualité de ce dimanche. La compétition est électorale ce soir, elle était sportive cet après-midi. Le nouveau roi de la terre battue parisienne est autrichien. Une finale extraordinaire à Roland-Garros, au terme de laquelle Thomas Muster a battu en 3 manches l'Américain Michael Chang. Depuis tout petit, il en rêvait. Oui. Muster l'a fait. Thierry Clopoux.
Cet homme-là qui crie plus fort que son ombre n'en finit plus de grimper. C'est sa 35e victoire d'affilée sur terre battue et la plus belle de toute sa vie. Un choc de titan cet après-midi. Du lift, de la puissance à n'en plus finir. À ce jeu de grande frappe, c'est Chang qui a cédé dans les deux premiers sets.
Regardez comment Thomas Muster court, lui qui avait cette jambe en plâtre.
Mais c'est en fait dans la troisième manche que le jeu a pris toute sa dimension. Combat de chevalier de la Terre Rouge. Le dernier coup d'épée, c'est Muster qui a fait mouche. Et Chang qui a été touché en plein vol. ...6-4 pour Muster dans ce troisième set. L'Autrichien miraculé du tennis, en 89, après un accident de voiture, les médecins n'étaient même pas sûrs qu'il puisse un jour remarcher normalement. Aujourd'hui, seule la victoire la plus belle l'a mise à terre.
7-5, 6-2, 6-4. Oui, je crois qu'on va faire quelques célébrations en Autriche, dans ma famille et tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'avoir réussi ce match aujourd'hui. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer.
Parce que
j'ai eu des moments difficiles pour arriver à passer toutes ces épreuves.
Muster, aujourd'hui, ce n'était pas seulement un cogneur, mais aussi un seigneur de cette terre qu'il aime tant. Les ramasseurs de balles de Roland-Garros s'en souviendront encore longtemps. Quant à monsieur l'arbitre, il a eu chaud.
Voilà, merci. Alors, j'aurais envie de comparer l'église Josué un peu à Thomas Muster. Pourquoi ? Comme je l'ai dit à Nathalie au début de culte, on est un peu à l'étroit ici, un peu comme lui qui était à l'étroit là avec sa jambe. Et je dis, oh, vivement qu'on puisse retourner dans les locaux, vous voyez, avec les bannières, on est un peu à l'étroit. Mais comme l'a dit Nadine à plusieurs reprises, on veut pas lâcher. Et moi j'ai l'impression, je crois même que Nadine l'a dit, tu as dit, c'est dans l'ADN, n'est-ce pas, ne pas lâcher, même si on a la jambe en plâtre, on continue, on va jusqu'au bout. Et le verset bien sûr que je retiens, c'est Hébreux 12:1, rejetons tout fardeau quelque part, même voilà la jambe alourdie, tout fardeau, tout obstacle, et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons avec persévérance, ne lâchons rien, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, ayant les regards sur lui. Et là, je peux pas m'empêcher de renvoyer à Paul, et je sais pas si vous avez remarqué, mais Paul, je crois qu'il devait aimer le sport, mais Thomas Muster, lui, c'était ça. Moi, j'ai mon objectif, jambe en plâtre, ça m'est égal, j'ai jusqu'au bout. Mais Paul, c'était pareil. Avec tout ce qu'il a vécu, regardez ce qu'il dit dans Philippiens notamment. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Ensuite, il dit aussi un peu plus loin. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oublions les paroles de mépris, les paroles de malédiction, tous les fardeaux passés, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous savez ce qui m'a marqué quand j'ai regardé un peu Roland Garros, c'est qu'il y avait une grande inscription sur un des cours, là, il y avait marqué, vous l'avez peut-être vu en anglais, « La victoire appartient aux plus tenaces ». Exact, exact. Ce qui m'a aussi marqué, c'est pour ça que je voulais qu'on montre aussi cette petite scène là quand il a eu la coupe, c'est que Thomas Muster, donc numéro un mondial, champion, il a fait quelque chose que j'ai pas souvent vu, il est allé donner la main au ramasseur de balles. Et moi ça me fait penser à l'humilité aussi. L'humilité. Et la parole qui dit, c'est 1 Pierre 5:5 qui dit, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il n'y a pas là des mini-stars et ainsi de suite. Revêtez-vous d'humilité, comme Thomas Muster l'a fait. Donc soyons persévérants, ne lâchons rien. Vidéo suivante, autre événement cette fois-ci, je vous emmène aux Jeux Olympiques. Je vous avais déjà montré cette vidéo lors du Covid, mais ce n'est pas grave, j'assume, je vous la remontre une nouvelle fois. Vidéo numéro 4, pardon. C'est pas celle-là, c'est celle-là avec Derek Redmond. C'est vidéo 4. La vidéo 4. Derek Redmond, je crois que c'était un coureur du 400 mètres qui s'est entraîné pendant des années. Vous savez, Julie, elle a une cousine aussi qui a participé aux Jeux Olympiques. Elle a d'ailleurs été médaillée aussi aux Jeux Olympiques de Sydney, me semble-t-il. Quand je vois, et donc elle était championne de natation, championne de France. Mais quand on voyait ce qu'elle faisait tous les jours, 3 heures dans la piscine, 6 heures, ouais, donc 6 heures. Je veux dire, les sacrifices, juste, quelque part, faut participer à une compétition. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et regardez ce qui se passe. Voilà, vous en souvenez peut-être cette vidéo. Claquage musculaire. Ça nous fait, bien sûr, ça nous parle de la course. Et donc, ce qui me touche, c'est que déjà, il veut finir la course. Il veut aller jusqu'au bout. Et ça me parle aussi pour ma propre course, parfois, quand on se prend des coups, on est blessé dans tous les sens du terme, blessure physique, blessure émotionnelle, offense. Mais aller jusqu'au bout. Et là, c'est son père qui le rejoint. Et regardez l'attitude du père. Ça aussi, ça me marque. Ça m'a marqué. Regardez ce qui se passe autour. Regardez la réaction du père. Il envoie l'organisateur là, il l'envoie, Petre, parce qu'il l'emmène jusqu'au bout de la course. Les organisateurs viennent, venez, quittez la piste. Non, on reste jusqu'au bout. Mon fils va finir cette course. Il dit non, mon fils va finir cette course. Ok, merci. Et là, bien sûr, l'image du Père, ça m'a fait tout de suite penser au Dieu, au passage qui parle de, du Dieu de toute consolation, n'est-ce pas? Et là, je voudrais juste vous lire ce passage qui se trouve dans 2 Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, aucune consolation ne peut l'échapper, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Parfois, vous savez, on est à terre et on ne peut pas continuer la course. On n'y arrive pas tout seul. Et ce qui est bon, c'est qu'on a notre Père Céleste à notre côté, qui peut, à nos côtés, qui peut nous relever. Et notre Père Céleste aussi qui utilise, le Seigneur qui utilise son corps aussi pour nous relever. Et vous voyez, cet après-midi, on va avoir une agape aussi, une réunion, lors de laquelle on va présenter le secteur pastoral, le secteur de la prière aussi, à des personnes qu'on voudrait, à qui on voudrait proposer d'intégrer des équipes. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a ce genre d'accident-là, on voudrait que vous tous, vous et moi, ben, qu'on puisse aussi être soutenus, accompagnés. Et c'est le cœur du Père. Parce que voilà, nous on a reçu la consolation du Père, mais comme dit le verset, c'est aussi pour la donner. Être des instruments de consolation. Donc on est dans cette dynamique-là. Et j'aurais juste envie de préciser, parce que, comme vous le savez aussi, voilà, on est en train de travailler sur le secteur pastoral, secteur de l'accueil, secteur de la prière. C'est important de structurer tout ça, d'avoir des personnes qui sont prêtes à consacrer leur temps pour nous soutenir. Mais en fin de compte, ça reste l'affaire de tous. C'est comme l'évangélisation. Tu peux pas dire, ah mais oui, c'est réservé à ceux qui en appellent d'évangélistes, donc moi j'ai pas évangélisé, comme notre frère Bernard l'a dit, mais c'est le rôle de chacun. C'est le rôle de chacun. Pareil, regardez pour l'accueil. C'est Nadine qui l'a dit d'ailleurs. Accueillez-vous les uns les autres. C'est pas réservé à des spécialistes. Regardez pour tout ce qui est d'ordre pastoral. Que les membres également soient les uns des autres. Les uns des autres. Vous voyez, là aussi le secteur pastoral, ça nous concerne tous. Regardez la prière, comme on le fait lors de la Sainte Cène aussi, cette dynamique de la prière collective. Jacques 5, priez les uns pour les autres. Donc n'oublions pas que que le fait aussi de relever l'autre, ça me concerne. Je suis le gardien de mon frère et soyons aussi vigilants les uns envers les autres. Récemment, j'ai participé à un week-end prophétique au Rimlisov, il y avait Pierre-Daniel Martin qui était là, et à l'issue de ce culte, de ce week-end, il nous a rendu visite à notre domicile, on a eu un petit temps d'échange, et là, sans qu'on lui demande rien, il nous a dit, ah, je vois trois mots pour l'église Josué, trois mots, je vais vous en donner deux d'abord. Il a dit, et il faisait ça, ah vous étiez dans un creux, ça me parle de la vague, vous savez dont on parlait la dernière fois. Je vois un creux, mais ensuite, ce que j'entends, c'est rafraîchissement et relèvement. Comme là, rafraîchissement et relèvement. Je ne sais pas comment vous sentez les choses, mais moi j'ai l'impression que depuis des semaines, en tout cas, moi à titre personnel, je ressens comme un rafraîchissement avec la louange, les cultes. Je ressens, moi en tout cas à titre personnel, qu'on est quelque part, qu'on commence quelque part à être sur cette vague de rafraîchissement et de relèvement. Moi c'est en tout cas comme ça que je le perçois. Et d'ailleurs, vous savez, il y a aussi une image qui m'a touché dans la Bible par rapport à Paul. Vous savez, là, quand Nadine nous a dit, voilà, faites un cercle, c'est quand Paul, il a été lapidé, et les gens croyaient qu'il était mort. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans Acte 14. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des gens qui l'ont lapidé, ils le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Donc, ils l'ont vraiment lapidé. Donc, je ne pense pas qu'il faisait la comédie, je ne le pense pas. Regardez la suite. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Et moi, j'aurais bien voulu voir cette scène, mais est-ce que, quelque part, c'était une guérison miraculeuse ou pourquoi il se lève tout de suite alors qu'il a été lapidé, on pensait qu'il était mort. Mais en tout cas, voilà, cette image des disciples qui l'entourent, de l'église qui entoure les personnes qui sont à terre. Et on veut vraiment garder cette dynamique. Et ensuite, bien sûr, le Père. qui nous console. Et là aussi, 1 Pierre 5,7 qui nous dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Lui-même prend soin de vous, concrètement. C'est pour ça que moi, j'aime les témoignages qui illustrent cette bonté du Père dans la vie concrète, l'action du Père dans la vie concrète des gens. C'est pour ça que j'ai aimé, la dernière fois, je crois que c'est Christine Price qui est venue témoigner, elle a dit « Ouais, donc j'avais cette opération, tout ça, qui venait, peut-être des pensées de crainte, d'intimidation. » Mais il y a Nathalie qui est venue me voir. Et Nathalie qui brûlait d'envie d'aller voir Christine et qui lui partage à la fois une image et des paroles qui étaient conformes à ce qu'elle avait reçu. N'est-ce pas Christine? Waouh! Le Père qui utilise ses enfants pour encourager, pour consoler les autres. Le Père donc qui encourage, qui relève, qui console, qui avertit, qui s'intéresse aussi à nous, comme on l'a vu aussi dans cette vidéo. Et il y a bien sûr Joël, vous connaissez, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Dieu qui se sert des dons de son esprit pour encourager, pour quelque part exprimer son cœur de père à travers ses enfants. Et là, en tout cas me concernant, déjà autre chose, si vous avez ce genre de témoignage-là, de l'action concrète de Dieu dans votre vie, à travers voilà, des paroles de connaissance ou n'importe, venez me voir. Moi, j'aime écouter ça. Venez me voir. Ça nous édifie, n'est-ce pas? Ça nous encourage. Mais moi, depuis des semaines, il y a une intensité au niveau des rêves et c'est impressionnant. Je voudrais juste en partager quelques-uns pour illustrer à quel point Dieu est bon. Et Dieu parle, et Dieu est vivant, et Dieu agit concrètement. Je parlais de ce week-end-là prophétique au Rimnisov. Donc Pierre-Daniel Martin était venu nous voir. Donc je vous avoue que le dimanche soir, je vais encore préparer mes cours le lendemain. Vous savez qu'un week-end, vous avez tellement d'infos. Ensuite, vous préparez à vos cours. Je vais avouer quelque chose. Je ne pensais pas à ce moment-là à Patricia. Patricia devait avoir son IRM le lendemain, le lundi. Donc on avait un message, mais je vous avoue, le dimanche soir, j'étais là, dans mon train-train, dans mon optique, avec tout ce qu'on avait reçu. La nuit du dimanche au lundi, de qui je rêve? De Patricia. Patricia, j'ai rêvé d'elle une fois, peut-être il y a 10 ans, 7, 8 ans en arrière. Je rêve de Patricia, et Patricia, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un couloir, et elle me parle tranquillement de choses médicales. Je ne pourrais plus vous dire de quoi elle m'a parlé, parce que même avant, elle utilise un jargon, de toute façon, si j'ai peut-être rien compris... C'est pas grave. Mais en tout cas, elle me parlait tranquillement des choses médicales. Et le lendemain matin, ah oui, IRM, priez pour Patricia. Et ensuite, je lui écris. Mais quelque part, pour moi, le message, c'est, en tout cas, premièrement, que Dieu me le rappelle. Et deuxièmement, le Père qui me rappelle qu'il sait très bien qu'elle va avoir l'IRM et qu'il est aux commandes. Et quelque part, je savais, c'est bon, le Père est là. Et ça confirme ce que tu as partagé. Autre exemple aussi, dernièrement, alors on avait fait un parcours alpha, et là il y avait une personne qui est atteinte de schizophrénie, qui a suivi tout le parcours, il y avait une soif qui était là, et à un moment donné un grand coup de pompe, et elle a dû être hospitalisée, hôpital psychiatrique, on est allé la voir, et là c'est vrai qu'on est allé la voir avec Julie, quand on l'a entendu parler, donc c'était pas elle qui parlait, enfin... voilà, c'est un peu comme dans les films, si vous voulez, je vais pas aller dans les détails, mais des choses vraiment de la possession, quoi. Mais et donc, on était allé voir il y a quelques mois en arrière, là je fais un rêve dernièrement, et là, je vois, j'entre dans la chambre d'hôpital, et elle est là, et il y a un monsieur, un médecin qui rentre dans cette chambre, dans mon rêve, habillé tout en blanc, là comme dans les films, là, tout en blanc, et il sourit, et il lui dit, écoutez, je suis prêt à vous consacrer une demi-heure, pour vous écouter. Et cette dame était là, cette personne, et je vois, elle commence à sourire. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que dans ce rêve, bon voilà, je vais être honnête, c'est moi qui ai commencé à lui raconter ma vie, enfin bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais envie de causer peut-être. Mais en tout cas, ok, je l'ai partagé à l'équipe Alpha, je dis waouh, là je me dis, il y a quelque chose là qui va se passer, qui peut se passer, parce qu'elle souriait. Elle souriait, cette dame, face à ce médecin habillé en blanc. Alors déjà, on peut se demander, un ange, on ne sait pas, quoi. Et j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps. Oui, cette dame va sortir de l'hôpital parce qu'elle dit qu'elle n'entend plus cette voix à l'intérieur. Waouh, gloire à Dieu. Autre chose aussi pour montrer que Dieu s'intéresse aussi au sport, s'intéresse au loisir. C'est Julie qui a fait ce rêve dernièrement au sujet d'une personne de l'église. Elle a vu cette personne de l'église jouer de la guitare. Jouer de la guitare et Julie l'accompagnait. Elle lui a partagé ce rêve et cette personne lui a dit qu'elle envisageait effectivement de prendre des cours de guitare. Nous, on le savait pas, ça. On ne le savait pas, mais c'est Dieu à travers le rêve qui a confirmé à cette personne que justement c'était sa volonté. Et ça c'est bon. Dernier rêve que j'ai fait dernièrement, demain je vais avec les élèves de seconde à Stuttgart jusqu'à mardi. Et d'ailleurs mardi on va rencontrer une athlète de haut niveau qui va participer aux Jeux Olympiques, donc dans une école chrétienne. Et on m'a demandé si je devais accompagner. Moi je voulais prier parce que quelque part, avec ce qui est arrivé à Julie en République tchèque, j'ai plus envie qu'on se déplace comme ça. Oui, on accepte. Non, tu discernes et tu demandes la prière. J'ai fait un rêve. Et ce rêve, d'abord, il m'a perturbé. Parce que dans ce rêve, j'étais en Allemagne avec mon véhicule. Et il y a la police allemande qui a un harpon et qui tire sur ma plaque d'immatriculation. Comme ça, donc il y a comme un harpon qui se plante dans ma plaque sur ma plaque d'immatriculation. Amende 72 euros. Alors, je vais voir le chef d'établissement, Monsieur Schmitt, et je lui dis, écoute, moi j'ai eu ce rêve. Mais ensuite, je lui ai dit, ah, mais attends. Stuttgart, c'est une ville un peu spéciale. Il faut peut-être avoir une sorte de plaquette verte, un truc comme ça. Il dit, ah, on va se renseigner. Je contacte le manager de l'école. Je lui dis, est-ce qu'il faut avoir une plaquette spéciale, là, écologique, pour entrer dans la ville? Il dit, oh, que oui. Vous en avez besoin. Sinon, la contravention, j'ai vu sur Internet, ça allait de 68 à 100 euros par véhicule. Je dis, waouh. Elle où la trésorerie? Vous voyez? Économie de 200 euros, on va dire. Non mais, c'est le Dieu qui s'intéresse aux détails. Moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Donc je vais y aller. Merci de prier pour nous, s'il vous plaît. Mais merci Seigneur parce que tu t'intéresses à nos détails. Maintenant on va passer à la course collective. Parce que Dieu est un Dieu d'équipe, déjà, à la Trinité. Et un Dieu qui aime l'esprit d'équipe. Et notre course... c'est une course collective. La course chrétienne est une course collective. Et notre course aussi à l'église Josué est une course collective. Et là, je voudrais juste vous lire un verset avant de demander à Chloé de projeter deux petites vidéos. Romains 15, 5. Que le Dieu de la persévérance. Ah, tiens, on en parlait juste avant avec Thomas Muster. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation. On en parlait juste avant. Vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, on retrouve ça, selon Jésus-Christ. Vous voyez, l'esprit d'équipe, l'unité, l'union en Christ et l'union les uns avec les autres, ça crée une force qui est vraiment irrésistible. Alors, vidéo 5 sur les aigles, s'il te plaît. Équipe de football américain, je vous invite à lire les commentaires. Merci. Et donc là, voilà, on le voit, union avec le Seigneur, esprit d'équipe, vous voyez ce que ça fait, ils ont remporté le championnat. Ils ont remporté le championnat. D'ailleurs, en plus, les aigles, n'est-ce pas, voilà, dimension prophétique. Maintenant, une autre vidéo aussi, c'est l'avant-dernière vidéo, et c'est aussi une histoire, vraiment, j'aime les histoires, surtout quand elles sont vraies. C'est dans les années 70, à l'Alabama, aux États-Unis, il y avait à l'époque encore des problèmes de racisme. Et là, il y a une équipe de football américain qui a commencé à accueillir des joueurs noirs. Et donc, ça a créé des tensions. Et ensuite, vous allez voir, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que toute l'atmosphère au sein de cette équipe a vraiment switché, changé de manière glorieuse. Voilà. Donc, histoire vraie. Donc, on en a fait même un film.
Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui se dressent contre nous. Si jamais vous deviez vous contenter d'aimer ceux qui vous aiment, dites-moi donc, quel genre d'amour serait-ce là?
Tu as quelque chose de spécial, Tony. Je le vois. Tu as un vrai don. Mais c'est à toi de décider ce que tu veux en faire.
Je peux pas. Il a dit que j'irai pas à la fac d'Alabama. Ni moi, ni tous les gens comme moi.
J'aimerais m'entretenir avec votre équipe. Mais j'ai vu certaines choses à travers tout le pays.
Vous n'en verrez pas ici. J'aimerais que vous nous évitiez les meutes.
C'est pas ma faute, Owen. J'essaie d'enseigner le football.
Mais ça va au-delà du football, hein.
Mais qu'est-ce que vous diriez si je vous annonçais que c'est pas forcé que ça se passe comme ça? Vous pouvez faire ça. Mais je vous demande quand même de vous tenir debout, maintenant, dans ces gradins, et de prendre une décision. De changer, de pardonner, d'accepter d'être pardonné. Voilà à quel point Dieu vous aime.
Qu'est-ce qui vient de se passer?
Regarde-moi. Je suis fier de toi. Que tu gagnes ou non, tu restes mon fils. Il est écrit dans la Bible que sans vision, le peuple périt. Alors je te dirai, va leur en apporter. Combien de joueurs noirs dans l'équipe? J'en ai pas assez.
Pourquoi croyez-vous que ça va changer?
Parce qu'il est grand temps. Tu sais quelle est la différence entre toi et ces imbéciles? Eux sont des lâches. Et toi, non.
Là, dehors, personne ne sait ce qui s'est passé dans cette équipe. Mais en gagnant, ce soir, ils sauront
un espoir.
Celui que l'on surnomme premier touchdown.
Un rêve.
Il a grandi à Birmingham.
Un chemin.
Allez, là, c'est ton moment. C'est ton heure, là. Tu y vas et tu la prends.
D'une vie.
Voilà ce qui se passe quand Dieu vient à nous.
Merci. Et donc là, vous voyez aussi l'esprit d'équipe, des personnes réunies, unies en Dieu, ce que ça peut faire aussi. Et il y a une phrase qui m'a aussi, que je voudrais relever. C'est quand il est dit à un moment donné, il a dit, donc il s'adresse à ce monsieur noir qui veut intégrer l'équipe, il a dit: tu sais, Tony, tu as un don, je décèle en toi un don, mais c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Et quelque part, c'est important aussi de prier pour qu'on soit chacun à notre place. C'est le troisième mot de Pierre Daniel Martin. Je vous rappelle les deux premiers mots pour l'église Josué: rafraîchissement, relèvement. Le troisième mot, positionnement ou repositionnement dans les appels. Dans les appels de chacun. Qu'on soit tous à notre place, pour qu'on soit tous quelque part à notre poste, les défenseurs, les milieux de terrain, qu'on soit tous à notre poste. Et là, je voudrais aussi vous partager un rêve que j'ai eu dernièrement. Et là aussi, j'ai rêvé d'une personne que je connais pas trop. Et j'ai pas forcément compris le rêve. Alors je me suis adressé à sa fille. Et du coup, ce qui a été discerné, c'est que quelque part, c'était l'appel du Seigneur qui est revenu à la surface. C'est Dieu qui, alors, à travers moi, qui ne connais pas du tout la personne, met en lumière un appel peut-être qui a été ralenti par les circonstances de la vie, mais qui est de nouveau remis en lumière. Et ça, je dis, waouh, Dieu s'intéresse évidemment à nos appels et il s'intéresse bien sûr à la position de chacun et il veille à ce que chacun soit au bon endroit. Il suffit simplement de le suivre. Alors, au-delà aussi de ces appels qu'on a, purement individuels, il y a aussi des appels collectifs. Un appel qui nous est commun, pas collectif, mais commun. C'est Pierre qui nous dit bien sûr qu'on est tous appelés à bénir. C'est notre appel. Mais il y a encore un autre appel, et je voudrais juste terminer par celui-là en vous montrant un extrait du championnat de foot d'Israël, en Israël. Donc les commentaires, vous allez rien comprendre. Mais c'est pas grave, regardez juste ce qui se passe et soyez attentifs à ce qui se passe près du but. D'accord? Court extrait. Donc regardez ce qui va se passer à gauche.
סולומון שולח את זה לאמצע וחביבו יכבוש וזה 1-0 הכי משוגע
שראיתם Mais c'est en fin de match, hein. Le gardien. Complètement stupéfait. Ça, ça doit être unique dans l'histoire du foot. Ouais, à nouveau ralenti. Et encore le joueur blessé, le joueur qui marque, qui continue à le soutenir.
דני עמוס על הרצפה, אבל מה שקרה הוא בלתי יתואר. אומרים שלחלוץ יש עבודה, להיות חלוץ. זה מה שקרה עם חביב חביבו. הוא הלך להיות
חביבו. Regardez, joueur devant.
מנור סולומון, הוא רואה את הנבדל, והוא עושה את הפריצה כדי...
הוא עושה את הסיעות הרחב
שחביבו לא יהיה בנבדל. הוא עובר את חביבו.
הוא כובש, ואז הוא חוזר לדבר החשוב.
Merci. Moi, ce qui me plaît, bien sûr, c'est que le joueur, il reste auprès de son coéquipier. Il va marquer, mais après, il aurait pu aller voir les supporters. J'ai marqué. Il revient voir son coéquipier. Et vous savez, pécher, ça veut dire rater la cible, rater le but. Ben là, moi, j'ai envie de dire quelque part que là, ici, il a marqué un but, mais quelque part, il a accompli la volonté du Seigneur. Qui dit, et c'est ça, l'appel, notre appel à chacun, Galates 6:2, porter les fardeaux, regardez, les uns des autres. On est nouveau là. Les uns des autres, et vous accomplirez la loi de Christ. Pour moi, il a accompli la loi de Christ et il a marqué le but. C'est notre but d'accomplir la loi de Christ. Donc, porter les fardeaux les uns des autres. Alors, en guise de conclusion, je voudrais faire une prière spéciale parce que je voudrais prier sur chacun de vous la parole. Je voudrais prier une prière de Paul. Je trouve une prière qui est adaptée à l'école chrétienne, à l'établissement Daniel, mais aussi adapté à l'église Josué. Donc je vous invite juste à fermer les yeux et à écouter simplement la prière de la parole. Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Donc aussi pour votre vie, pour votre appel, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. Priez pour le Seigneur. C'est ça qui est important. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, continuons à marcher. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. C'est lui qui nous fortifie. Et la fin, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Je répète, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Soyons toujours et avec joie, persévérant et patient. Au nom de Jésus. Amen.